Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous pourrions scinder cet évangile en quatre parties. La première est la pose du cadre de l'action. Jésus est venu enseigner la foule et des pharisiens, des docteurs de la loi, sont aussi présents. Les uns sont là parce qu'ils l'ont vu accomplir des miracles et ils sont dans l'admiration. Et les autres sont là pour surveiller Jésus et essayer de le prendre en défaut. Pendant que Jésus enseigne, l'Évangile nous dit « Des hommes portant sur un lit un homme paralysé cherchaient à l'introduire et à le placer devant lui. » Alors, arrêtons-nous sur cet homme paralysé et ses compagnons qui le portent. Qui est cet homme paralysé? Qui représente-t-il? Cet homme représente l'humanité et chacun d'entre nous, avec tous nos enfermements, avec tous les murs, toutes les carapaces, les poids que nous portons, les obstacles à notre liberté de mouvement que nous nous imposons, les culpabilités qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de vivre. Son handicap au paralytique représente toutes nos paralysies, nos paralysies relationnelles, générationnelles, affectives. Avant d'être physiques, nos paralysies sont souvent des paralysies de l'âme, qui trouvent souvent leur origine dans les culpabilités que nous nous imposons et qui nous font tourner en rond, en ressassant sans cesse les mêmes problèmes. Elles nous rongent de l'intérieur et elles nous immobilisent. Parfois, le handicap permet aussi d'attirer l'attention des autres sur nous, d'attirer la compassion, d'obtenir des autres l'affection qui nous manque, d'être porté par les autres. Nous voyons aussi que dans cet état, s'approcher du Christ n'est pas chose aisée. On n'ose pas ou on ne peut plus. Souvent, nous avons besoin d'être portés par nos frères qui peuvent nous conduire au Christ. Le texte ne nous dit pas d'où est venue l'initiative d'aller vers le Christ, du paralysé ou de ses amis. Mais ne trouvant pas le moyen de le faire entrer à cause de la foule, ils montèrent sur la terrasse et par la toiture le descendirent avec sa civière au milieu des gens devant Jésus. Ceux qui croient d'abord en la puissance guérissante du Christ et qui sont prêts à tout, qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus, à braver les usages et à oser être différents, ont une attitude de foi, de confiance. Ils ne savent pas s'ils pourront atteindre Jésus, mais par amour, ils osent quelque chose de différent. Le toit qu'il faut percer représente toutes nos protections que nous construisons pour nous protéger et qui nous empêchent de rencontrer le Christ. Pour arriver au milieu devant Jésus, il va nous falloir passer à travers nos toits, c'est-à-dire à travers nos certitudes, nos défenses, lâcher prise pour se présenter à un moment seul avec toutes nos infirmités devant le Christ. C'est un chemin d'humilité à accomplir. Nous n'osons pas venir demander à Dieu le sacrement du pardon parce que nous ne nous jugeons pas suffisamment présentables devant lui, que nous pensons que ce n'est pas le bon moment ou bien que nous ne le méritons pas. Nous comprenons aussi que la prière dans la foi que nous faisons pour un autre va lui permettre de franchir ses obstacles et de nous présenter au Christ. La deuxième partie, c'est le moment du scandale, qui vient par les paroles du Christ, « L'homme, tes péchés te sont remis. » Le Christ se laisse déranger, même au milieu de son enseignement. Ce n'est pas la foi du paralytique qui est mise en évidence, mais la foi du groupe d'hommes, la foi, l'audace dont ils ont fait preuve, l'audace de croire que Dieu est le secours de l'humanité paralysée. Dieu s'est fait homme pour venir sauver l'humanité de sa maladie principale, le péché. Le péché, ce n'est pas une désobéissance à une morale ou à un code de conduite, mais c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu, de notre chemin de divinisation. C'est la coupure de la relation avec Dieu. Et c'est ce qui guide le Christ en premier devant la foi exprimée par ces hommes. Et il dit au paralytique, « Homme, tes péchés te sont remis. » Pour le Christ, d'abord rétablir la relation avec Dieu en pardonnant. Peut-être que le paralysé et ses compagnons ont été surpris, car au fond d'eux-mêmes, ils attendaient peut-être la guérison physique. Mais ces paroles du Christ deviennent l'objet d'un scandale. Pour les gardiens de la loi, ces paroles sont inaudibles. Qui est celui qui profère des blasphèmes, qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul? L'idée juive ordinaire était que la maladie était en général le châtiment de quelques péchés ou de non-respect de la loi, et que le pardon ne pouvait venir que de Dieu seul. Ils n'ont pas compris que le Christ vient ici d'affirmer devant eux sa divinité. La troisième partie, c'est le miracle. Le Christ dévoile leurs pensées et va montrer que si comme Dieu il a la force divine de l'amour qui l'habite et qu'il peut pardonner les péchés, ça c'est sa miséricorde, il peut aussi nous guérir physiquement et psychiquement. C'est lui le grand thérapeute, le guérisseur intérieur. Et il dit à l'homme, « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » En langage moderne plus direct, je pense qu'il dirait « Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui te lamentes sur ton sort. Fais un avec tout ce qui t'arrive et bénis, descends dans ton cœur, ta maison intérieure. Aime et arrête de ressasser ta fausse culpabilité. » Et la quatrième partie, c'est bien sûr le résultat. Cet homme qui était couché, paralysé, se lève et se met debout. C'est une grâce de régénération qu'il reçoit. Il naît à une nouvelle vie. Il retrouve son autonomie, sa liberté. Ses murs, ses carapaces qui le terrassaient ont été brisés par la puissance d'amour du Christ, puissance reçue du Père qu'il nous transmet. Quelle que soit notre situation, avec le Christ, notre grabat ou notre civière devient léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai, nous a-t-il dit. C'est cela notre chemin de vie, aller vers le Christ. Et le paralysé, libéré de son fardeau, s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. L'action de grâce est le signe d'un changement fondamental dans sa vie. Il a rétabli sa relation avec Dieu. C'est en lui, dans son cœur, sa maison, que se trouve la vie. La joie et la gratitude ne peuvent que jaillir de ses profondeurs. Mais cela va plus loin. Tous furent pris d'extase et glorifiaient Dieu et disaient « Nous avons vu des merveilles aujourd'hui. » En réalité, le terme grec qui est utilisé, c'est « paradoxa » et pas « merveille ». Et certains auteurs ont traduit par des choses paradoxales. Paradoxe signifie une chose contraire à l'opinion commune. Lorsque nous entrons dans le monde de Dieu et de son agir envers l'homme, nous entrons dans un univers qui dépasse notre compréhension humaine. Les choses ne sont pas faites dans l'ordre que l'on imagine. Et saint Paul nous le rappelle d'ailleurs dans son épître aux Éphésiens, celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Lorsque nous prions pour la guérison d'un malade, comme nous l'avons fait ces derniers temps aussi pour Françoise, soyons assurés que quelque chose de grand est arrivé pour elle et pour nous. À Dieu soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.